Questionnement éthique autour de l'intelligence artificielle, on entend souvent que les algorithmes ne devraient pas prendre des décisions à la place des humains, qu'ils devraient plutôt être une aide à la décision, mais que c'est l'humain qui doit avoir le dernier mot. Alors deux chercheuses ont essayé de mesurer si dans le domaine de la justice, on prenait vraiment de meilleures décisions que les algorithmes, et les résultats sont assez surprenants.
Oui, en effet Charlotte, parce qu'il faut rappeler simplement qu'un ordinateur ne fait qu'une seule chose, c'est calculer, c'est tout. Alors pour calculer, il faut d'abord des nombres, et puis il faut des algorithmes, c'est-à-dire quel calcul faire sur ces nombres. Alors quand ces nombres proviennent de données objectivables, d'appareils de mesure et qu'on a des lois physiques par exemple, il n'y a pas de souci, l'algorithme tourne bien et fournit bien une décision absolument correcte. Lorsqu'on n'a pas des nombres, eh bien les êtres humains inventent ces nombres et mettent en place un calcul sur ces nombres qu'ils viennent d'inventer. Et la dernière publication qui est sortie fin septembre 2023 bien entendu, publiée dans National Bureau of Economic Research, c'est intéressant, puisque dans le domaine économique, on n'a pas beaucoup de nombres réellement objectivables. Et effectivement, là, c'est le groupe de Crystal Yang, qui est professeur à la faculté de droit de Harvard. Et la première auteure est Victoria Angelova, qui termine sa thèse de doctorat en économie, toujours à l'université d'Harvard. Et qu'est-ce qu'elles ont étudié? Elles ont étudié les algorithmes d'aide à la décision de justice. Et là, comment est-ce qu'on met au point ces algorithmes? Et est-ce que ces algorithmes sont meilleurs dans la décision que la décision de juge humain? Et donc, ils ont étudié depuis 2016 jusqu'en 2020, puisque là, il y a eu la pandémie. Ils ont étudié 37 855 cas pris par 62 juges. Et les données fournies à ces algorithmes, c'est typiquement quel est le type d'infraction, quel est l'âge de la personne, quel est le sexe de la personne, quelle est l'ethnicité de la personne, puisqu'aux États-Unis, on encode l'ethnicité des personnes, quels sont les antécédents criminels, quelles sont les fautes commises avant le procès. Et le juge, c'est le fameux juge des cautions, à savoir est-ce que vous allez être remis en liberté conditionnelle avant votre procès, ou bien est-ce que vous allez être enfermé tout de suite.
Donc là, ce qu'on demande à ces algorithmes-là, c'est d'aider à la décision de dire oui ou non, vous remettre en liberté sous caution.
Exactement. Okay. Donc la décision doit être prise par un juge, mais aux États-Unis, le juge se fait aider par cet algorithme. Et l'algorithme propose une solution en disant on le libère, ou bien non, il va en prison, avec un calcul derrière. Et donc, il faut savoir si cet algorithme est bon ou pas bon, et si la décision des juges est bonne ou pas bonne. Et donc, qu'ont-elles fait dans cette analyse? Eh bien, elles ont vu, pour les gens qui étaient libérés sous caution, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a récidive? Est-ce qu'il y a encore des fautes qui sont commises, etc.
Est-ce qu'on a bien fait de les libérer sous caution?
Exactement. Alors, elles ont constaté que 90% des juges avaient des résultats moins bons que ce que donnait l'algorithme. C'est-à-dire qu'ils prenaient la décision de libérer et les personnes commettaient de nouvelles fautes et donc retournaient chez les juges. Mais que 10% de ces juges avaient de meilleurs résultats que l'algorithme. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il faut soit corriger l'algorithme, soit modifier le comportement des juges. Et donc, elles ont examiné la classe de ces deux groupes. Qu'est-ce qui se passe chez ces 10% de personnes qui ont des décisions meilleures que l'algorithme? Alors, elles ont cherché et elles ont constaté qu'il y avait différentes caractéristiques différentes entre ces juges. Par exemple, ils ont vu qu'ils avaient la même ancienneté de pratique, les mêmes types d'opinions politiques, etc. Mais la vraie différence, c'était que d'une part, ces juges-là qui étaient meilleurs imposaient souvent des conditions non financières comme caution. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas donner, par exemple, 1 000 $ et puis ils étaient libérés. Ils proposaient des traitements, c'est-à-dire, par exemple, traitement pour abus de substances ou bien un traitement psychologique. Donc ces juges préféraient donner des garanties, en quelque sorte, mais qui n'étaient pas financières. La deuxième chose aussi qui était assez amusante à lire, c'est qu'en fait, ces juges-là, qui sont meilleurs que les algorithmes, n'avaient en fait jamais travaillé dans les forces de l'ordre. C'est-à-dire que les mauvais juges avaient, eux, un biais culturel lié à leur métier avant, qui était de travailler pour la police. Et donc là, ils ont constaté qu'il y avait effectivement des prises de décision différentes, mais que les bons juges, eux, n'avaient pas travaillé pour la police avant, et que les bons juges, entre guillemets, eh bien, prenaient en considération des aspects personnels de ces coupables, ce que ne faisait pas l'algorithme, et proposaient des solutions alternatives à la caution financière. Et donc c'est ça que termine cet article en disant, ben voilà, on va modifier évidemment les algorithmes, mais on va aussi modifier la formation des juges.
Mais c'est incroyable parce qu'en fait, on pensait faire des études sur les algorithmes, mais on fait aussi là clairement une étude sur comment fonctionne la justice et quelles sont les bonnes décisions. Pasquale, vous nous disiez au départ que cette étude étude, elle était menée par des gens spécialistes en économie. C'est quoi le rapport avec l'économie ?
Mais parce qu'ici, vous avez ce qu'on appelle un échantillon biaisé, puisqu'on analyse que ceux qui sont en liberté, qui ont été mis en liberté. Donc on n'analyse pas ceux qui sont mis en prison, évidemment, puisqu'ils ne peuvent plus commettre des fautes. Et on a ce même problème en économie, à savoir, on peut avoir des données économiques qui sont biaisées. Par exemple, si vous n'analysez que les gens qui boivent de l'alcool, eh bien, vous n'avez que des données biaisées, puisque vous n'avez pas analysé ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et donc ce genre de biais est connu en économie, est connu dans les statistiques. Et donc dans l'article, il y a un petit modèle mathématique qui va déterminer, en fait, malgré ce manque de données, est-ce qu'on peut quand même conclure qu'il y a des bons juges, des mauvais juges ? Est-ce qu'on peut conclure que l'algorithme se trompe parfois ?
D'accord, et donc ça veut dire aussi que malheureusement, on ne sait pas si on a bien fait ou pas de mettre en prison ce qu'on a mis en prison.
Exactement, ça par contre, on ne saura jamais.
Ça c'est quand même un tout petit peu.
C'est dommage, donc, effectivement.
Merci Pasquale Nardone.